Lundi 27 novembre 2017, un petit lundi avec de la neige sur les trottoirs ce matin. Vous l'entendez, ce n'est pas Hélène Denis qui vous adresse actuellement, soit Brodeur, son remplaçant titré pour une dernière journée. Voilà. On a toute une émission dans votre revue de presse et on commence tout ça dans un instant. Avant d'aborder les nouvelles du jour, abordons le jour des nouvelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé le 27 novembre par le passé, Jean-Sébastien?
Alors, on recule peut-être une année dont vous vous rappelez, François, dans l'an 602.
Ah oui, oui, bien sûr.
Ben oui, tout à fait.
Bien sûr. Jean Drapeau était au pouvoir.
En fait, c'était l'empereur byzantin Maurice qui était au pouvoir, non pas à Montréal, mais bon, l'empereur byzantin Maurice et ses cinq fils sont décapités à Chalcédoine sur la rive asiatique du Bosphore. C'était un 27 novembre dans l'an 602. 27 novembre 1826, c'est la date donnée pour l'invention des allumettes à friction par M. John Walker. 1861, le transport par tramway débute à Montréal. 27 novembre 1895, Alfred Nobel met un point final à son testament en léguant l'intégralité de sa fortune pour la création du prix Nobel.
Oui, fortune qu'il avait accumulée en inventant la dynamite, on le rappelle aux auditeurs.
Donc oui, on peut noter un peu l'ironie avec le prix Nobel de la paix avec ça. 1896, c'est la première d'Ainsi parlait Zarathoustra par Richard Strauss. 1898, en Nouvelle-Écosse, près de Yarmouth, le naufrage du Portland lors d'une tempête fait 190 morts. 27 novembre 1940, l'Allemagne annexe formellement la Lorraine. 1942, pour que les Allemands ne prennent pas leurs navires, les Français les sabordent, dans la rade de Toulon.
Oui,
et oui, donc oui, ce n'est pas sans me faire penser...
Absolument dramatique. Il y avait des unités dans cette flotte-là qui étaient merveilleuses et qui ont été... s'aborder justement pour pas tomber aux mains des Allemands. Enfin, il y aurait toute une page historique à faire là-dessus.
Oui, et ça me rappelle le clin d'œil qu'Astérix a fait de ça quand les pirates s'abordent leur navire avant que les Gaulois arrivent. 1974, 27 novembre, les restes du plus vieil humain baptisé Lucie et vieux de 3 millions d'années sont découverts en Afrique. 1975, des tireurs de l'IRA ou de l'IRA assassinent chez lui Ross McWhirter, l'un des éditeurs du livre des records Guinness. 1987, face à des grèves tournantes de ses techniciens, Air Canada met en lockout 8500 employés. 27 novembre 1992, le gouvernement du Venezuela résiste à une tentative de putsch. Il y a 50 morts et le palais présidentiel à Caracas est bombardé. Celui qui était derrière ce putsch, nul autre que Hugo Chavez, qui fut ensuite président de la République du Venezuela de 1999 à 2013.
Ce qui était aussi la date de sa mort. Après, il a légèrement négligé ses fonctions.
27 novembre 1998 à Montréal, Maurice Mombouché est acquitté d'avoir ordonné le meurtre de deux gardiens de prison. En 2001, deux ateliers de Sainte-Foy sont dénoncés pour avoir installé des sacs gonflables à la poudre à canon dans 10 000 véhicules. 2002, l'OSM, l'Organisation mondiale de la santé, détecte les premiers cas de SRAS provoquant une pneumonie atypique. 2005, la première greffe partielle de visage, on parle donc du triangle nez, lèvres et menton, est réalisée en France sur une femme de 38 ans qui a été gravement défigurée par une morsure de chien. 27 novembre 2006, les parlementaires canadiens adoptent la motion reconnaissant la nation québécoise. 27 novembre, c'est également l'anniversaire de naissance du physicien suédois Anders Celsius, 1701. 1933, naissance de l'écrivain et cinéaste québécois Jacques Godbout. 1940, naissance de Bruce Lee. Et 1942, naissance de l'auteur, compositeur et guitariste Jimi Hendrix. Finalement, le décès du jour en ce 27 novembre. On retourne en 1895, alors que s'éteignait l'écrivain Alexandre Dumas, fils et non pas père. Donc, ce n'est pas le Alexandre Dumas qui nous a donné Les Trois Mousquetaires, mais bien son fils dont l'œuvre est un peu moins connue, mais qui quand même quelques pièces de théâtre et quelques livres à son actif. Et c'est tout.
Merci Jean-Sébastien. Des œuvres moins connues, Alexandre Dumas, fils. C'est pas lui, la Dame aux Camélias?
Oui, entre autres.
Ah
entre
non,
autres.
Mais quand même, c'est sérieux, ça. C'est pas du petit livre sans impact.
Je me rétracte.
OK, 200 push-ups, on n'en parle plus. On passe immédiatement aux nouvelles de la presse et sans plus attendre. Et je me fais plaisir, je commence avec un billet d'humeur. On se rappellera que la fin de la semaine dernière a été largement occupée par l'ouverture de la boutique Adidas sur la rue Sainte-Catherine, où le gérant a prononcé quelques mots en français pour accommoder les médias francophones et la ville de Montréal, selon ses propres mots, et il a eu droit effectivement à une volée de bois vert. Alors, l'épilogue de ça, ce qui a été magnifiquement écrit, c'est Patrick Lagacé qui l'a écrit, donc « Cher gérant de la boutique Adidas ». Grosse semaine, n'est-ce pas? Je t'imagine encore décoiffé par cette controverse lancée par tes mots lors de la réouverture de la boutique Adidas rue Sainte-Catherine, ta boutique. Tu ne l'avais pas vu venir, j'en suis certain. Tu as dit, toi qui portes un patronyme francophone, des mots qui t'ont sans doute semblé tout à fait anodins quand tu les as prononcés. Je vais dire un mot en français pour accommoder la ville de Montréal et les médias francophones. Et tu as mené le reste de l'événement, où se trouvait une majorité d'anglos, en anglais. Mais un journaliste du Journal de Montréal s'est étonné de tes mots. Il les a tweetés, il y a eu un feu de broussailles médiatique et politique. La ministre de la Culture a commenté, le premier ministre aussi. Grosse semaine, jeune homme. Ne t'en fais pas, tout ça n'est pas vraiment de ta faute. Tu es le produit de la culture actuelle dans le Québec et dans le Montréal du 21e siècle. Si tu avais présidé à la réouverture de cette boutique en 1987, disons, je crois que tu n'aurais pas prononcé ces mots. À l'époque, la culture et l'air du temps étaient à la vigilance quant à la langue. Je pense que tu aurais su instinctivement et organiquement à l'époque que tu avançais en terrain miné. Il fut une époque où le français était un cheval de bataille, autant qu'une langue. Les gens descendaient dans la rue pour affirmer que le français était la langue d'usage au Québec, la langue officielle. Nous avions peur de disparaître, nous, Québécois, dont le caractère distinct en Amérique tient principalement à ça, le français dans une mer anglo-saxonne. Bref, je m'égare. Mais retiens ceci, jeune gérant de la boutique Adidas de la rue Sainte-Catherine. Jadis, la langue était un enjeu social et politique majeur, viscéral et explosif. Pense qu'en 1969, 10 000 étudiants ont manifesté à Montréal pour réclamer que l'université McGill soit transformée en université française. La même année, 30 000 personnes ont manifesté contre une loi linguistique qui laissait les parents libres de choisir la langue d'enseignement de leurs enfants. Et en décembre 88, quand la Cour suprême du Canada a invalidé des pans de la loi 101 qui avait fait du français la langue normale et habituelle du Québec, 20 000 personnes ont convergé vers le centre Paul Sauvé pour dire leur mécontentement. Quelques mois plus tard, pour la même raison, 60 000 personnes ont manifesté à Montréal. La foule s'étirait du parc La Fontaine au Champ de Mars. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis qu'en 87, tu n'aurais probablement pas prononcé ces mots. En 87, tu aurais su que ce genre de sottise ne se disait pas. C'était une sottise à l'époque. Aujourd'hui, moins. Je dois te dire, jeune homme, que je suis de ce paléolithique linguistique que je viens de te décrire. Je suis un produit de la culture du Québec des années 60, 70, 80 et 90. La langue, c'était important, ça teintait tout. Me faire dire « bonjour, hi » chez Starbucks, aujourd'hui, me fait encore tiquer. Cette époque est révolue, je suis un dinosaure, et les pierres qu'on t'a lancées sont les derniers échos de cette époque où la langue était un terrain politiquement et socialement miné, des cailloux fossilisés comme les mythiques vendeuses anglaises de chez Eaton's. J'ai davantage eu un choc culturel qu'un accès de colère en lisant tes propos, du genre « Hein? Ça se dit? Ça se peut? » Mais à part ça, ceux dont c'est le métier de s'indigner et ceux qui sont obligés de le faire, je suis sûr que l'indignation face à tes propos n'est pas généralisée, n'est pas viscérale. Ta boutique sera pleine pour le magasinage des fêtes. Car tu sais mieux que moi qu'en fin de semaine, des centaines de personnes ont convergé vers ta boutique pour le privilège de faire la file afin d'entrer acheter de formidables, extraordinaires espadrilles griffées à 300 $ pour le vendredi noir du week-end rouge, si bien moussées par les marketeurs. On dit qu'ils étaient des centaines à faire la file. On dit que la file faisait 200 mètres. Un valeureux consommateur s'est confié à TVA. C'est en moyenne 4 heures, la file. Et ils nous ont même donné l'option de revenir demain si on n'avait pas, si on pouvait pas faire nos achats. Pourrait-on réunir une centaine de personnes en novembre 2017 pour manifester pour le français à Montréal? Et en les mettant bout à bout, est-ce que ça ferait 200 mètres? I doubt. Je lis les commentaires des gens qui attendaient dans la file et je constate qu'ils se fichaient pas mal de ce que tu avais dit, cher gérant de la boutique Adidas. Alors, rassure-toi, ces gens-là, ces jeunes-là, qui ont fait la file pendant 4 heures devant la boutique, ils ont voté avec leurs pieds dans un référendum qui t'a donné raison. Ils s'en fichent que tu aies parlé de la langue française comme d'un accommodement. Ils s'en fichent des chroniqueurs et des politiciens qui se sont déchirés la chemise. Ils veulent des godasses Adidas à 300 $. Ils sont eux aussi un produit de la culture actuelle. Et dans la culture actuelle, c'est clair, Adidas est un brand mondial, attrayant, une marque bien plus forte que tout ce que les identités nationales insignifiantes comme la nôtre. Difficile aujourd'hui de ne pas parler de politique étant donné que la CAQ était en réunion à Sherbrooke et que le Parti libéral, lui, était en congrès à Québec et même célébrait son 150e anniversaire. Alors, congrès du PLQ, Couillard propose une liaison rapide Montréal-Québec. C'est un texte de Hugo Pilon-Larose. Philippe Couillard propose de lancer dans un prochain mandat un appel de projet pour que les facultés de génie lui soumettent des plans pour la construction d'une liaison électrique rapide entre Montréal et Québec, comme un monorail, afin de le réaliser après les élections de 2022. Dans son discours de clôture qu'il a prononcé hier devant les délégués au 33e congrès des membres du Parti libéral du Québec, le premier ministre a mis au défi les Québécois d'imaginer une ligne de transport moderne, durable, futuriste entre notre capitale nationale et notre métropole. Je vois dans ce projet-là une façon pour nous d'inventer au Québec quelque chose de nouveau, comme ce qu'on a fait à l'époque avec les barrages, a dit M. Couillard, ajoutant qu'il ne parle pas d'un train, car on peut faire des choses beaucoup plus modernes maintenant. Le premier ministre qui affirmait aux membres réunis au Palais des congrès de Québec que l'impossible, c'est ce qui n'a pas encore été fait, n'a pas donné un cadre financier pour son projet, rappelant qu'il était toujours embryonnaire. Quand on va présenter notre projet, il sera assez détaillé avec un cadre financier, a-t-il précisé. Avec l'effondrement de l'État islamique, ils reviennent au pays. Je parle de ces jeunes qui étaient partis se battre outre-frontière avec des convictions au départ et peut-être des déceptions au retour. La presse canadienne s'est penchée sur leur réintégration. Titre « Les djihadistes revenant au pays aptes à la réhabilitation », dit un expert. Les Canadiens qui ont été combattre pour des mouvements terroristes à l'étranger peuvent être réhabilités, soutient un spécialiste de la question. Lorne Dawson, un professeur de sociologie à l'Université de Waterloo en Ontario, dit que ceux qui reviennent dans leur pays sont souvent traumatisés ou désabusés par leurs expériences. Ils croient avoir rempli leur devoir en allant défendre des terres musulmanes et veulent revenir à une vie plus normale. Monsieur Dawson, qui est aussi un directeur de projet pour le Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society, ajoute que la réhabilitation nécessite des efforts attentifs, mais déplore que le Canada soit lent à se doter d'une telle capacité. Selon le renseignement canadien, il y a au moins 180 personnes ayant des liens avec le Canada qui sont soupçonnées d'avoir des activités terroristes à l'étranger. La moitié d'entre eux se seraient rendus en Syrie ou en Irak. M. Dawson estime qu'environ une dizaine de djihadistes sont revenus au Canada. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't
get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. But a joke. But you and I, we've been through that. And this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey!
Sous un texte de Bob Dylan, on vient d'entendre Jimi Hendrix avec la pièce All Along the Watchtower. On se fait plaisir car c'était l'anniversaire de naissance. Bon, en fait, c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui de Monsieur Jimi Hendrix, lui qui est né le 27 novembre 1942, bien qu'il nous ait quittés en 1970.
Merci Jean-Sébastien. Jean-Sébastien La Liberté qui assure donc la mise en onde de cette émission et les choix musicaux et qui respecte la guitare immortelle de Jimi Hendrix. Effectivement, quelle technique. On passe aux pages du devoir où on parle également de politique, pas moyen de faire autrement. C'est un des effets pervers des élections à date fixe. Comme on sait à l'avance que ça va se passer donc en octobre 2018, ben, tout est prêt, on a 300 jours de campagne devant nous, c'est ce que ça donne. Un texte sur le vote anglophone, donc les anglophones des électeurs convoités, c'est Marco Belair-Cirino qui signe. Les libéraux et les caquistes se disputent les électeurs anglophones qui semblent prêts à déroger à leurs habitudes électorales après l'abandon par les péquistes de la menace de tenir un référendum sur l'indépendance du Québec entre 2018 et 2022. Cela dit, le chef de la CAQ, François Legault, n'est pas prêt à tout pour faire le plein d'appui au sein de la communauté anglophone. D'ailleurs, la clause d'impact obligeant le gouvernement québécois à mesurer les répercussions de tout nouveau projet de loi ou règlement sur les citoyens d'expression anglaise, qui a été adopté par les membres du Parti libéral du Québec samedi, ne survivra pas l'élection d'un gouvernement caquiste. Pour l'instant, je ne vois pas l'utilité, a déclaré M. Legault à l'occasion d'une conférence de presse dimanche. On a déjà trop de bureaucratie au Québec, a-t-il ajouté. En revanche, l'aspirant premier ministre promet de garder intact le secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, mais seulement si celui-ci s'avère vraiment utile. Je vais voir ce que ça va donner. Si ça donne de bons résultats, si c'est vraiment utile, puis que ce n'est pas seulement de la bureaucratie additionnelle, je n'ai pas de problème à le garder, a dit M. Legault au cours du week-end. À Québec, la nouvelle ministre responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise, Kathleen Vail, a mis en avant la nécessité d'accroître le sentiment d'appartenance des Québécois anglophones et allophones à l'égard du Québec. On veut que tout le monde se sente Québécois à part entière, que ce soit des gens qui viennent d'ailleurs ou des anglophones. Il faut travailler ce sentiment d'appartenance, a-t-elle déclaré. D'ailleurs, l'ex-premier ministre Jean Charest a félicité son successeur Philippe Couillard d'avoir donné son feu vert à la création du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise et de près de trois ans et demi après s'être vu confier les commandes de l'État. « J'ai un seul regret, Philippe. J'aurais dû y penser. J'aurais dû le faire », a-t-il déclaré devant les militants libéraux réunis au Centre des congrès de Québec samedi soir pour célébrer le 150e anniversaire de leur formation politique. M. Legault a appelé les électeurs d'expression anglaise à enfin appuyer, le 1er octobre 2018, un parti politique qui partage leur vision du Québec. Si vous êtes fatigué d'être tenu pour acquis, la CAQ est maintenant une solution de rechange claire pour vous, a-t-il déclaré en anglais durant le discours de clôture du Conseil général de la CAQ dimanche. L'épouvantail du référendum sur la séparation du Québec est enfin disparu, a-t-il martelé tout sourire. En 2014, le saut en politique de Pierre-Carl Péladeau, le point levé pour faire du Québec un pays, avait bousillé le plan de campagne de M. Legault. Pris de panique, plus d'un fédéraliste était accouru dans les bras du PLQ après avoir sérieusement envisagé de voter pour la CAQ. Le chef libéral Philippe Couillard a convenu qu'il ne multipliera pas les sorties médiatiques sur les périls associés au projet indépendantiste afin de se faire réélire. C'est raisonnable de penser qu'on ne fera pas une campagne sur un éventuel référendum. D'ailleurs, je ne vois pas un appétit dans la population pour cet enjeu-là. On aura une campagne, je dirais, nouvelle, a-t-il expliqué en conférence de presse. Le PLQ recueille 60 % des intentions de vote des non-francophones, contrairement à 17 % pour la coalition Avenir Québec, 7 % pour Québec solidaire et 4 % pour le Parti québécois, selon un sondage effectué par Léger il y a moins d'un mois. Chiffre en main, l'état-major de la CAQ ne fonde pas d'espoir à ce moment-ci sur une percée dans le West Island à Montréal. Cependant, il mise gros sur un affaiblissement du vote libéral anglophone dans des circonscriptions en région abritant une proportion importante de locuteurs anglophones, Bromissisquoi en Estrie, par exemple. On parlait beaucoup la semaine dernière du rapport de la vérificatrice générale qui a notamment épinglé les leçons de français aux nouveaux arrivants, c'est-à-dire les allophones qui émigrent au Québec. Brian Miles a signé un autre éditorial, mais Robert Dutrisac a également signé un éditorial dans Le Devoir d'aujourd'hui intitulé « Francisation des immigrants, la désinvolture ». Dans son dernier rapport, la vérificatrice générale, la VG, du Québec, Guylaine Leclerc, a constaté le dysfonctionnement du programme de francisation des immigrants dont est chargé le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, le MIDI. Cette déplorable situation est pourtant connue depuis des années et le gouvernement n'a rien fait. Quand il est question de la langue française, sa posture, c'est l'apathie. « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », répète-t-il. Dans son audit portant sur la francisation des immigrants par le Midi, la VG établit que seulement le tiers des nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le français ont suivi un cours de français offert par le ministère. Parmi ceux qui s'inscrivent au cours du Midi, une poignée seulement réussit à atteindre le niveau de compétence en français jugé nécessaire pour occuper un emploi ou poursuivre des études postsecondaires. L'an dernier, Le Devoir avait révélé que seulement 40 % des immigrants qui ne connaissaient pas le français s'inscrivaient à un cours de français, tandis que 8 ans plus tôt, cette proportion était de 60 %. Que se passe-t-il? Le Midi, entretenant d'oiseuses conjectures, n'en savait rien. Pourtant, comme le souligne l'AVG, oui, en présentant leur demande de certificat de sélection, les candidats à l'immigration choisis par Québec signent une déclaration dans laquelle ils s'engagent à respecter les valeurs communes de la société québécoise et à apprendre le français s'ils ne le connaissent pas déjà. Or, le Midi n'effectue aucun suivi individuel de ces nouveaux arrivants qui choisissent de ne pas participer au cours de français du ministère. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ont trouvé du travail et, si c'est le cas, dans quelle langue ils travaillent. On peut se demander à quoi sert cette déclaration s'il ne s'agit pas d'un engagement à tout le moins moral. Désinvolte, le Midi a manifestement décidé qu'il ne voulait rien dire. Quand il est question de la langue française, le gouvernement Couillard répète qu'il n'y a pas de problème. Vendredi, la nouvelle ministre de la Culture et des Communications et responsable de la protection et de la promotion de la langue française, Marie Montpetit, a réagi sur les ondes de LCN à ce gérant de la nouvelle boutique Adidas au centre-ville de Montréal pour qui la langue française doit être accommodée, tandis que la langue qui prime, c'est l'anglais. Citant une étude rendue publique jeudi par l'Office québécois de la langue française, Marie Montpetit affirmait que le français connaissait une progression comme langue d'usage au travail. Peut-on y voir un réel progrès? Seulement si l'on fait preuve de mauvaise foi en mettant de côté les conclusions du chercheur qui a signé les statistiques et qui démontrait qu'au contraire ça stagne, plutôt que de se réjouir d'un progrès imaginaire, le gouvernement libéral aurait avantage à s'en tenir aux faits et à reconnaître les ratés de la francisation. Surtout quand on sait que Philippe Couillard a l'intention de hausser substantiellement le nombre d'immigrants, tandis qu'ils sont de moins en moins nombreux à connaître le français à leur arrivée. Et voilà qui termine le volet devoir de cette émission. Restez des nôtres, on aborde le Journal de Montréal dans quelques instants.
Jamais pourquoi mes mains flambent dans cheveux et que je veux tout ce que tu veux. Pourquoi je pars en cédant ma place? Tu t'aimes et tu ne le sauras jamais. Si je te donnais ma vie, chaque moment.
Extrait de l'album 3, c'était Les Bébés avec Tu ne sauras jamais, bien sûr en lien avec la disparition hier qu'on a appris de Patrick Bourgeois, décédé à l'âge de 55 ans.
On passe au Journal de Montréal, Journal de Montréal qui nous réservait une primeur assez étonnante. On revient un peu en arrière, on se rappellera que Jacques Duchesneau, qui était à ce moment-là à la tête de l'unité anticorruption qui a été dissoute et qui est devenue l'UPAC par la suite, Jacques Duchesneau donc avait remis un rapport accablant sur le financement des partis politiques, selon ses hypothèses, les preuves qu'il avait rassemblées, rapport qui devait, lui, demeurer secret pendant un siècle. Eh bien, le Journal de Montréal a mis la main sur ce rapport-là. Ça nous donne un texte de Jean-Louis Fortin. Des politiciens s'en sont mis plein les poches, selon Duchesneau. C'est le titre. Des politiciens sans scrupules s'en sont mis plein les poches durant des années au Québec, selon le fameux rapport de Jacques Duchesneau, qui devait rester secret pendant 100 ans et dont notre bureau d'enquête a réussi à obtenir une copie. Le système de financement politique illégal a été mis en place par les partis eux-mêmes plutôt que par les firmes de génie conseil et de construction, selon le rapport. En d'autres mots, ce sont les politiciens qui demandaient de l'argent pour leur caisse contre des contrats. Pire encore, la majorité des sommes récoltées auraient servi non pas à faire des élections, mais bien à enrichir personnellement des individus proches du pouvoir, allègue l'ex-chef de police dans ce document explosif de 57 pages. Jacques Duchesneau se basait sur ce rapport pour affirmer sous serment à la commission Charbonneau en 2012 que 70% de l'argent amassé par les partis était illégal. Il a remis son document à la juge Charbonneau, mais son contenu n'a jamais été dévoilé, tout comme une grande partie de la preuve amassée par la commission. Dans ce rapport intitulé « L'influence est allouée, les décisions sont à vendre », Jacques Duchesneau présente une foule de constats, de témoignages et d'hypothèses. Il nomme sans détour des entrepreneurs, des politiciens, des professionnels. Notre bureau d'enquête publie aujourd'hui seulement les noms de gens visés par des allégations vérifiables ou documentées autrement. Les sources déterminantes que nous avons rencontrées nous l'ont confirmé. Il y a une culture éhontée de pot de vin dans le financement des partis politiques qui contamine complètement les municipalités et le niveau provincial, écrit celui qui a tour à tour été chef de la police de Montréal, directeur de la défunte unité anticollusion, l'UAC, et député pour la CAQ. On nous rapporte que des organisateurs de partis politiques passeraient des commandes aux firmes de génie conseil et aux entreprises de construction pour obtenir les sommes d'argent souhaitées. En retour, ils leur offriraient des contrats lucratifs. On fait face à une scandaleuse affaire politico-financière, poursuit Jacques Duchesneau. En fait, la fraude dépasserait le cadre des élections. Les sommes d'argent recueillies par les organisateurs seraient réparties ainsi, environ un tiers aux caisses des partis et deux tiers pour les gens au courant des stratagèmes et pour les proches de divers politiciens aux commandes du pouvoir, peut-on lire. L'ex-chef de police de Montréal dit s'appuyer sur 13 sources, dont il cache l'identité ou qu'il désigne dans son rapport avec des noms de code comme Albatros, Pietro, Dolby et Salomon. Tous, sans exception, nous ont dit craindre pour leur vie, précise-t-il dans son rapport. Duchesneau indique toutefois que son document s'appuie sur des preuves suffisantes et non des preuves hors de tout doute raisonnable, et que chaque personne dont le nom se retrouve dans ce rapport est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Le rapport de Jacques Duchesneau décrit les observations qu'il a faites en 2012, soit avant un resserrement massif des règles de financement des partis politiques. Nous ne pouvons révéler plusieurs informations et constats du rapport en raison des procès qui sont en cours ou qui sont prévus. Quelques-uns des constats de Jacques Duchesneau, au provincial par exemple, 70% de l'argent consacré au financement des partis politiques au provincial ne serait pas de dons enregistrés sur les listes du DGE. Il découlerait de pots de vin et de commandes d'en haut, c'est-à-dire de demandes des organisateurs de partis. Pas de pots de vin, pas de contrat. Grave problème de corruption. 65% des pots de vin commandés iraient à engraisser les poches de hauts dirigeants provinciaux et de personnes au courant des stratagèmes de corruption, alors que 35% seraient versés dans les caisses des partis. Au municipal, 100% des contrats touchant des infrastructures coûteraient plus cher, notamment en extra, pour permettre aux firmes d'ingénierie et aux entreprises de construction d'éponger les pots de vin versés. 90% de l'argent recueilli par le Parti Union Montréal du maire Gérald Tremblay aurait provenu, oui, de dons sympathiques et illégaux versés par tradition forcée par les firmes de génie conseil. 80% des municipalités au Québec qui tiennent des élections auraient vécu des expériences de financement clé en main. Enfin, 50% des municipalités demanderaient aux gens du génie conseil et de la construction de verser une quote-part sur les contrats accordés. Et ça, bon, je vous le rappelle, c'est un rapport qui n'a jamais été officiellement rendu public et dont une partie des informations devrait être confirmée ou infirmée dans les prochaines années. Usuellement, quand on signe une convention collective, c'est rétroactif à la date de la fin de la dernière convention. On touche sa rétroactivité. On a de plus belles vacances cette année-là. Eh bien, pour les pharmaciens, sachez-le, c'est absolument pas le cas. Ce que rapporte Hugo Duchesne, pharmacien d'hôpitaux en colère. Les pharmaciens d'hôpitaux sont en colère contre le gouvernement provincial qui ne leur a toujours pas payé des augmentations de salaire négociées il y a plus de 2 ans. Les pharmaciens d'établissement se sentent non respectés. Notre groupe a été très patient et rien ne justifie un jour d'attente de plus, dénonce le président de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, la PES, François Paradis. Plus de 1300 pharmaciens ont signé une pétition envoyée au gouvernement pour réclamer un montant d'argent moyen d'environ 5 000 $ qui leur est dû. En mars 2015, les pharmaciens d'hôpitaux ont été le premier groupe du réseau de la santé à conclure une entente de principe avec le gouvernement. Ils ont accepté que leur soient applicables les mêmes pourcentages d'augmentation, sans les connaître, que ceux qui allaient être négociés aux tables centrales de négociation. Ces hausses sont connues depuis septembre 2016 et les autres salariés syndiqués du réseau les ont reçues, mais pas les pharmaciens. Le ministère de la Santé et des Services sociaux répond pour sa part que l'entente conclue doit encore être modifiée pour revoir la structure de gestion des départements de pharmacie depuis la création des CIUSSS et que les ajustements salariaux ne seront versés qu'à ce moment. Les sommes dues seront alors versées de façon rétroactive, précise le MSSS. Est-ce un beau problème ou un drame? Manquer de main-d'œuvre, ça arrive à des entreprises québécoises assez fréquemment et pas toujours de la main-d'œuvre très qualifiée comme on va le voir. Un texte de Francis Alain, l'étau se resserre pour Pélican. Le fabricant de kayaks québécois Pélican pourrait voir un contrat de plusieurs millions lui filer entre les doigts s'il ne trouve de toute urgence plus de 200 travailleurs à ses usines de Salaberry-de-Valleyfield et de Laval. Ce n'est pas un petit contrat. Plusieurs millions pourraient s'envoler. Si on perd leur confiance, c'est difficile de la regagner après. Partage au journal Marie-Christine Piedboeuf, PDG Pélican International, fondée à Laval en 68. Pélican est en pleine croissance. Les commandes se multiplient. La production s'accélère. Une bonne nouvelle qui amène son lot de défis, estime Mme Piedboeuf. Cette année, on prend du retard dans la production. Alors, on n'embauche plus de personnes pour rattraper ce retard. C'est un cercle vicieux, observe la femme d'affaires. En ce moment, la compagnie a un pressant besoin de 50 travailleurs à Salaberry-de-Valleyfield et de 150 à Laval pour ses installations qui font canots, pédalos, luges et embarcations de pêche vendues dans une cinquantaine de pays. Pélican vient pourtant d'ouvrir une nouvelle usine à Valleyfield au coût de 20 millions l'an dernier, mais c'est une lame à double tranchant. Plus l'entreprise grandit, plus elle a soif de travailleurs d'usine, comme des aides à l'assemblage ou des aides opérateurs gagnant autour de 15 $ de l'heure à l'entrée. La PDG de Pélican veut par ailleurs que les gouvernements accueillent plus facilement les immigrants non qualifiés. Oui, il faut des professionnels, mais il faut aussi des personnes moins qualifiées, explique-t-elle. Récemment, son équipe est allée à un salon de l'emploi recruter des travailleurs haïtiens. La magie a opéré. Nous avions d'excellents candidats, mais nous avons dû les laisser aller parce qu'ils n'avaient pas leur permis de travail, regrette-t-elle. Voilà qui conclut donc notre revue du Journal de Montréal. On se retrouve dans quelques instants pour des sujets peut-être un peu plus légers.
Changer mes pneus, ça coûte de l'argent. Yeah. Je vais chez mon barbier pour faire couper mes cheveux, ça coûte de l'argent. Oui, l'argent fait le bonheur. Je vais au magasin pour m'acheter des cossins, toujours l'argent. Yeah. Je veux manger des bananes, manger des dîners en canne, mais j'ai pas d'argent. C'est ça qui est le malheur. L'argent fait le bonheur. L'argent. Si tu veux t'amuser, ça prend l'argent. Si tu veux t'éclater, que ta nana prenne son pied, ça prend l'argent. Oui, beaucoup, beaucoup d'argent. Sing it. Oh yeah. Hey yeah yeah. Oh yeah. Yeah yeah yeah. Sois toujours des comptes, encore l'argent. Et ça monte, pour toi c'est la fin du monde. Fuck l'argent, mais l'argent fait le bonheur. Quand tu en auras plus, t'auras manqué l'autobus. Usé comme tous tes gugus, t'auras perdu tout ton temps. Pour l'argent, il fait le bonheur. Ce qu'on veut sans l'argent. On peut dire ce qu'on peut, mais l'on fait pas ce qu'on veut. Sans l'argent.
Les Respectables, l'argent fait le bonheur.
Est-ce que le prince Harry, lui, a déjà manqué de sous? En tout cas, ce qui fait son bonheur actuellement, c'est pas l'argent, mais bien l'amour. On va aux noces le printemps prochain, c'est dans tous les journaux. Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier au printemps prochain. Le Royaume-Uni attendait la nouvelle depuis des semaines. Le prince Harry et l'actrice américaine Meghan Markle se marieront au printemps 2018, une annonce qui devrait mettre du baume au cœur des Britanniques en pleine grisaille liée au Brexit. C'est désormais officiel. Harry, 33 ans, le trublion de la famille royale, habitué des pitreries, qui fut longtemps l'un des célibataires les plus convoités de la planète, va se ranger. Alors que la rumeur avait enflé ces derniers jours à Londres, l'heureuse nouvelle a été annoncée lundi matin dans un communiqué publié sur Twitter par Clarence House, la résidence officielle du prince Charles, le père de Harry. Son Altesse royale et Mademoiselle Markle se sont fiancés à Londres plus tôt ce mois-ci. Le prince Harry en a informé Sa Majesté la Reine et d'autres membres proches de sa famille, indique le communiqué. Le mariage aura lieu au printemps 2016, a ajouté Clarence House, sans donner de détails sur les futures noces qui devraient de toute évidence susciter un engouement exceptionnel dans un Royaume-Uni séduit par cette union peu commune pour la famille royale, en tout cas, entre un prince et une actrice métisse, étrangère, divorcée et roturière. Meghan Markle sera toutefois la deuxième Américaine divorcée à faire son entrée dans la famille royale après Wallis Simpson, pour qui le roi Édouard VIII avait dû abdiquer en 1936. Encore que là-dessus, il y a des versions historiques qui ne sont pas tout à fait d'accord. Parmi les premiers à réagir, la reine Élisabeth II et son époux, le prince Philip, se sont dit enchantés par le futur mariage de leur petit-fils. Les parents de Meghan Markle, Thomas Markle et Doria Ragland, se sont de leur côté dit incroyablement heureux pour le couple. « Notre fille a toujours été une personne aimante et bonne », ont-ils souligné. « La voir se marier à Harry, qui partage les mêmes qualités, est une source de grande joie ». Les félicitations étaient aussi de rigueur du côté de Downing Street, où la première ministre Theresa May a offert ses plus chaleureuses félicitations. C'est un moment de grande fête pour deux personnes amoureuses et en mon nom personnel et au nom du gouvernement et du pays, je leur souhaite beaucoup de bonheur, a déclaré la chef de l'exécutif. Le couple s'installera à Kensington Palace où vivent le prince William, le frère de Harry, son épouse Kate et leurs deux enfants, George et Charlotte. Ah, ça vous est probablement déjà arrivé si vous avez des enfants d'âge scolaire de les voir arriver à la maison avec des manuels avec lesquels vous n'êtes pas 100% d'accord. Eh bien, sachez que si vous viviez en Floride, vous pourriez aller devant un tribunal pour ça. Eh oui, une nouvelle loi permet de contester les manuels scolaires utilisés en classe en Floride. C'est un texte de l'Associated Press qui a été publié dans les pages du Devoir. La législature de la Floride a récemment promulgué une nouvelle loi afin de permettre à n'importe quel résident de l'État de contester les manuels ou le programme proposé par les districts scolaires et d'obtenir une audience devant un médiateur indépendant. Afin d'évaluer l'effet de la mesure, l'Associated Press a déposé une demande d'accès à l'information auprès des 67 districts scolaires de la Floride afin de mettre la main sur toutes les requêtes présentées en 2017 à ce sujet. 7 districts en ont reçu au moins une. Certains demandeurs estiment que les manuels d'histoire utilisés par les écoles publiques sont subjectifs, alors que d'autres croient qu'ils font la promotion d'œuvres littéraires dans lesquelles la sexualité est trop explicite. D'autres affirment que le réchauffement de la planète et la théorie de l'évolution sont des canulars qui ne devraient pas être enseignés en classe. Des demandeurs soutiennent également que le rôle de l'islam dans le monde est diminué dans les manuels, alors que d'autres pensent au contraire que c'est le danger représenté par le terrorisme islamiste qui est minimisé. Enfin, un parent a réclamé l'interdiction d'un populaire roman traitant justement de la censure dans le domaine littéraire. J'ai une pensée charitable pour les pauvres professeurs de Floride. Négociation de l'ALENA, le Canada a avancé une nouvelle perspective, un nouveau chapitre, en fait une nouvelle page de l'histoire des négociations bilatérales en matière de libre-échange. Bon, c'est pas encore incorporé dans un traité, ça a dû faire soulever un sourcil perplexe de l'autre côté de la table. Je vous donne lecture d'un texte intitulé « ALENA, le Canada fait valoir l'importance de l'équité entre les sexes lors des négociations ». C'est un texte de Gina Smith de la presse canadienne. Le gouvernement Trudeau est conscient que d'autres pays lèvent les yeux à l'évocation d'ententes commerciales féministes, mais les libéraux sont convaincus que l'idée sera un jour aussi évidente que celle d'inclure des normes du travail et de protection de l'environnement. Les négociateurs canadiens ont notamment fait valoir ce point de vue pour tenter de convaincre les États-Unis et le Mexique d'inclure un chapitre sur le genre dans le nouvel accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, indique des documents sur les négociations. Des points de discussion préparés par des hauts fonctionnaires, à Affaires mondiales Canada, en vue des négociations ayant démarré le 16 août à Washington, rappellent les premières discussions il y a une vingtaine d'années sur les normes du travail et l'environnement dans le contexte d'accords commerciaux. La création de mécanismes de coopération a augmenté notre compréhension de ces enjeux et a démontré la nécessité pour des obligations appropriées dans les accords commerciaux, ajoutent les documents. La presse canadienne a obtenu ces documents grâce à la loi sur l'accès à l'information. Même les responsables canadiens étaient sceptiques au départ, laisse-t-on entendre. Notre premier réflexe était de dire que les accords de libre-échange sont neutres relativement au genre. Mais est-ce que les effets sont neutres? Nous avons commencé à réaliser que ce n'est pas toujours le cas, soulignent les documents. Seulement une société d'exportation sur cinq est dirigée par une femme entrepreneur, affirment les documents, mettant aussi en lumière qu'une étude de la Banque mondiale montrant qu'un grand nombre de pays n'accordent pas les mêmes droits garantis par les lois aux femmes et aux hommes en ce qui a trait aux affaires. Je ne m'attends pas vraiment à ce qu'il y ait un chapitre sur le genre dans un nouvel ALENA, dit Angelica McEwen, mais je crois qu'ils auront ajouté une lentille de genre à d'autres chapitres et cela peut être utile. Alors peut-être qu'on est à l'aube d'une nouvelle façon de négocier les traités. Si vous n'avez toujours pas acheté votre calendrier de l'Avent, eh bien j'ai peut-être une suggestion, mais ça va être difficile parce qu'ils ont une rupture de stock importante. Un calendrier de l'Avent contenant du cannabis crée l'engouement. C'est un texte de Jordan Omond. Un fournisseur de cannabis de Vancouver peine à répondre au tsunami de commandes provoqué par ses calendriers de l'Avent contenant de la marijuana, une nouvelle version d'un classique du temps des fêtes qui suscite toutefois de l'inquiétude chez certains experts de la santé. Laurie Lee Fedler, la propriétaire de Coast to Coast Medicinals, a affirmé avoir été surprise par la réaction du public au lancement du calendrier plus tôt en novembre. En entrevue, Madame Fedler a raconté qu'elle avait voulu faire quelque chose d'amusant pour les adultes et qu'elle avait eu l'idée après avoir vu des calendriers de l'Avent remplis de bière. L'entreprise, qui ne possède pas de permis, a jusqu'ici vendu 150 calendriers. 300 commandes sont prêtes à être traitées et quelques 1500 autres sont en attente. Les calendriers de l'Avent de Coast to Coast Medicinals peuvent être remplis seulement de fleurs de cannabis, seulement de cannabis comestible présenté sous différentes formes, comme des bonhommes en pain d'épices ou des biscuits ou les deux, Il coûte entre 200 et 250 $. Même si le produit est illégal, Lorelei Fedler ne craint pas de faire l'objet d'une opération policière et assure que les autorités n'ont pas communiqué avec elle. Le gouvernement fédéral n'a pas encore finalisé le projet de loi visant à encadrer le marketing de la marijuana en prévision de la légalisation de la substance le 1er juillet 2018. Eh bien voilà qui va évidemment faire en sorte que vous ne regarderez plus jamais comme avant cet innocent petit calendrier d'avant Noël.
C'était une nouveauté de Charlotte Gainsbourg. La pièce s'intitule Rest. C'est également le nom de son plus récent album.
nouvelles internationales. Et on commence avec une nouvelle assez étonnante puisque le pape François est arrivé en Birmanie, un État bouddhiste qu'on accuse de maltraiter sa minorité musulmane formée d'un peuple qu'on appelle les Rohingyas et qui est largement expatrié actuellement au Bangladesh. Un texte de l'agence France-Presse. Arrivé en Birmanie, le pape rencontre le chef de l'armée, un texte de Catherine Marchand et de Richard Sergent. Accueilli par des milliers de Birmans, le pape François est arrivé lundi à Rangoon pour une visite délicate qui a débuté avec une rencontre surprise avec le chef de l'armée, accusé de mener une épuration ethnique contre la minorité musulmane des Rohingyas. Le général Min Aung Hlaing a eu la primeur d'une audience avec le pape en fin de journée à sa résidence, un ajout de dernière minute qui permet au puissant chef de l'armée de se positionner en interlocuteur de premier plan en devançant la rencontre mardi avec la dirigeante civile et prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. L'aura internationale de cette dernière a été fortement ternie par son manque d'empathie affichée pour les Rohingyas, qui sont plus de 620 000 à avoir fui depuis fin août au Bangladesh pour échapper à une campagne de répression de l'armée qualifiée d'épuration ethnique par les Nations Unies. Le général Min Aung Hlaing est accusé par les organisations de défense des droits de l'homme d'être le principal responsable de cette campagne. Il s'est dit opposé au retour en masse des Rohingyas, malgré un accord en ce sens annoncé la semaine dernière entre les gouvernements birmans et bangladais. La rencontre entre le pape et le général, de courtoisie selon le Vatican, n'a duré qu'une quinzaine de minutes. Ils ont parlé de la grande responsabilité des autorités du pays en cette période de transition, a prudemment commenté le Vatican. Le pape sait que ses déclarations concernant le sort de la minorité seront scrutées à la loupe lors de cette visite de 4 jours. Il n'a pas hésité à dénoncer à plusieurs reprises ces derniers mois le traitement réservé à ceux qu'il appelle ses frères Rohingyas au risque de froisser la majorité bouddhiste de Birmanie. L'opinion publique portée par un nationalisme bouddhiste anti-musulman est chauffée à blanc par les critiques internationales sur le traitement des Rohingyas. Mais agitant des drapeaux birmans et du Vatican, les catholiques birmans, ayant fait le déplacement pour apercevoir le souverain pontife lundi, voulaient croire en une paix possible. « Il vient pour la paix », dit croire Christina Ai-Ai-Sain, employée de banque catholique arborant un T-shirt avec la photo du pape et le slogan de sa visite « Paix et amour ».« Je vous demande de m'accompagner par la prière afin que ma présence soit pour ces populations un signe de proximité et d'espérance », avait lancé le pape dimanche aux 30 000 fidèles réunis place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Les quelques 700 000 catholiques de Birmanie, un peu plus d'un pour cent des 51 millions d'habitants du pays, qui ont longtemps été discriminés par la jeune birmane, espèrent beaucoup de cette visite. Les gens sont venus des quatre coins du pays, même pour le voir seulement quelques minutes, s'enthousiasme sœur Geneviève Mu, qui a fait le déplacement depuis l'État Karen à l'Est. « Je suis heureuse et fière du peuple catholique et de notre gouvernement qui a permis cette visite », ajoute-t-elle. On reste en Asie, plus particulièrement à Bali, où un volcan fait des siennes. Des milliers d'habitants fuient la menace du volcan Agung à Bali, un texte de Sonny Tumbelaka de l'agence France-Presse à Karangasem. Des dizaines de milliers d'habitants de l'île de Bali ont fui leur maison et des milliers de visiteurs étaient coincés lundi dans ce haut lieu du tourisme indonésien en raison du risque imminent d'éruption d'un volcan. Le mont Agung, qui grogne depuis plusieurs jours, crache de spectaculaires colonnes de fumée grise qui s'élèvent jusqu'à 3000 mètres dans les airs. Si 40 000 personnes sont déjà parties, les autorités ont relevé au maximum le niveau d'alerte et estiment qu'un total de 100 000 habitants pourraient devoir s'éloigner. L'aéroport international de Lille a dû fermer et, selon les autorités, environ 445 vols ont été annulés, affectant plus de 59 000 passagers coincés à Bali, pauvres. Le niveau d'alerte pour le volcan a été porté au plus haut, a déclaré un haut responsable du Centre national de volcanologie d'Indonésie, Jede Swandika. La dernière éruption du mont Agung remonte en 1963 et avait fait 1600 morts. Des secousses permanentes sont ressenties, a-t-il ajouté. La zone d'exclusion autour du volcan, située à 75 km de la station balnéaire touristique de Kuta, a été élargie à 10 km et les habitants vivant à l'intérieur de cette zone sont priés d'évacuer. Les projections continues de cendres sont parfois accompagnées par des éruptions explosives et un faible grondement sonore a indiqué dans un communiqué le Bureau national de gestion des catastrophes. Courte nouvelle pour vous parler, on pourrait appeler ça Minute Papillon, ça se passe au Mexique. Sachez qu'au Mexique, les derniers endroits où le papillon monarque peut se reproduire ou faire escale pendant sa migration sont maintenant gardés par la police. Il s'agit d'empêcher la population locale de couper le bois dans lequel les papillons se réfugient ou encore d'y planter des avocatiers. Et on a ainsi multiplié par 10 la surface sur laquelle ces pauvres papillons peuvent maintenant se reproduire. Oui, alors on en parlait tout à l'heure, le chanteur Patrick Bourgeois est décédé, c'est arrivé hier. Patrick Bourgeois, le chanteur du populaire groupe de musique des années 1990, Les Bébés, est décédé dimanche matin des suites d'un cancer, c'est un texte de la presse canadienne. Le décès du leader des Bébés a été annoncé par sa conjointe sur sa page Facebook en soirée. Mon beau et grand Patrick, mon partenaire de vie des 17 dernières années, nous a quittés, a écrit Mélanie Savard. Patrick Bourgeois était âgé de 54 ans. Il avait annoncé en février 2016 qu'il combattait un cancer. Il a livré une dure bataille à la maladie, mais son corps n'en pouvait plus, a confié sa conjointe. Il est mort paisiblement dans mes bras. En juillet dernier, il avait offert une performance au Festival d'été de Québec avec son fils Ludovic que les Québécois ont connu grâce à l'émission La Voix. La famille a indiqué qu'elle n'accordera pas d'entrevue pour le moment. La famille souhaite traverser cette dure épreuve dans l'intimité et demande la compréhension de tous, a-t-elle indiqué. Une cérémonie à laquelle le public pourra assister aura lieu prochainement, a-t-on indiqué sur la page officielle du groupe Les Bébés. Théâtre, Marie Labrec, dans les pages du Devoir, signe un texte intitulé « La pièce de théâtre Mazal Tov incarne la difficile cohabitation entre les cultures ». Pour sa première pièce, Marc-André Thibault n'a certes pas manqué de hardiesse. Le comédien s'aventure et c'est a priori méritoire dans des territoires que le théâtre québécois aborde rarement, soit le choc des différences culturelles au sein d'une union mixte. En plus de ce thème délicat, l'auteur a opté dans la forme pour une autre cohabitation difficile, le mélange des genres, la collision entre l'humour et le drame, toute chose exigeant un doigté qui fait malheureusement défaut ici. Mazal Tov s'ouvre pourtant sur une prémisse prometteuse. S'étant marié selon la tradition juive pour plaire à sa future belle-famille, Patrick, le sympathique François-Simon Poirier, s'est blessé en pratiquant un des rites. La cérémonie s'achève à l'hôpital où le nouveau marié, cette bonne patte conciliante, se voit pris entre deux feux, obligé de choisir son camp entre son meilleur ami, Philippe, et sa femme, outré par un geste antisémite que ce dernier aurait posé. Avec d'une part l'insensibilité, voire l'intolérance du farceur impénitent et d'autre part un sentiment de victimisation né d'un passé tragique, il y avait de quoi creuser le champ de mine de l'incompréhension culturelle, ou même d'explorer le questionnement très actuel du « peut-on rire de n'importe quoi ?» Mais tout va déraper très vite. Isabelle frappe Philippe, un accès de colère aux conséquences désastreuses et une scène maladroitement exécutée qui semble faire déraper la pièce. Le directeur du théâtre Bistouri a peut-être été inspiré par le dramaturge fétiche de la compagnie, Martin McDonagh, l'ours, l'Ouest solitaire, les ossements du Connemara, et par sa capacité à aller très loin dans la comédie noire. Mais une telle écriture en équilibre entre deux registres requiert une grande maîtrise. Ce n'est pas le cas ici, où ce mariage est souvent maladroit. Disons qu'il n'est pas facile de faire de l'humour autour d'un personnage devenu subitement tétraplégique. Et en poussant cette situation à l'extrême, Mazal Tov semble changer de sujet central aux dépens de la thématique des malentendus entre cultures, finalement bien peu fouillée. Et si vous voulez vous faire une idée par vous-même, sachez que la pièce sera au Théâtre Prospero jusqu'au 9 décembre. La terre a tremblé en Allemagne et c'est la faute de l'Orchestre Métropolitain. Je vous dis ça, ils ont vraiment fait un tabac. Premier pas du Métropolitain en Europe, un triomphe au-delà de toute espérance, un texte de Christoph Huss à Dortmund en Allemagne. Les premières notes de l'Orchestre Métropolitain jouées à l'étranger résonnent à la Philharmonie de Dortmund et ce sont celles d'une musique du Québec, Kaléidoscope de Pierre Mercure. Le choix est parfait. L'œuvre qui marque notre histoire musicale est inconnue ici comme est inconnu l'orchestre que Yannick Nézet-Séguin vient présenter à une ville qui l'a adopté presque comme un enfant du pays. La Philharmonie de Dortmund offre en effet une résidence de 3 ans à un artiste en le laissant libre de ses choix artistiques. Yannick Nézet-Séguin vient de finir triomphalement la sienne il y a quelques mois. Ce ne sont pas des applaudissements polis qui saluent Kaléidoscope comme habituellement après la première pièce d'un concert. Le chef est rappelé sur scène, l'enthousiasme ira croissant. Marie-Nicole Lemieux sera gratifiée de 4 rappels. Jean-Guyane Queyras aussi. Il y eut des larmes d'émotion de part et d'autre de la scène. C'était énorme. Jugez-en plus tôt. Le concert de l'Orchestre Métropolitain s'inscrivait dans un cycle concert de maîtres de la Philharmonie de Dortmund. De fait, la très large majorité des spectateurs étaient des abonnés de ce cycle dans lequel ils ont entendu ou entendront cette saison Murray Perania et l'Academy of St. Martin's in the Field, la Symphonique de Londres avec Simon Rattle, l'Orchestre de chambre Gustav Mahler et Daniel Getty ou le Gewandhaus de Leipzig avec Andres Nelsons, un public de connaisseurs. À l'issue de la soirée, on n'avait pas besoin de demander, il suffisait de tendre l'oreille. Fantastique et super concert s'entendait de partout dans les allées. Lorsque l'on demandait à ses abonnés s'ils avaient remarqué une différence de qualité orchestrale par rapport à leurs habitudes, la réponse était unanimement « Vous plaisantez ». Pas du tout. Ulrich Schwitzeis, oui, est professeur de composition et de théorie musicale à l'Université de Münster. Nous le rencontrons à la sortie. Lui a fait 70 km avec son épouse pour entendre l'Orchestre Métropolitain Yannick Nézet-Séguin. C'est le programme qui m'a attiré. Et le fait d'entendre avec son orchestre canadien Yannick Nézet-Séguin que j'avais déjà vu 2 fois. Je suis un professionnel de la musique et je suis vraiment ébloui du très haut niveau de ce que je viens d'entendre. C'est bien ce qui a fait dire au directeur de la Philharmonie Benedikt Stamps après le concert, ce n'était pas un succès, c'était un triomphe. C'est vrai qu'une salle debout en Allemagne, on ne voit pas cela tous les jours. Et voici venu l'heure de couvrir un peu ce qui se passe en région au Québec. Et on commence à Québec, encore que je n'ai pas voulu dire que Québec est une région au sens propre du mot. Je ne voudrais pas ici froisser des auditeurs. Ceci dit, il y a eu une activité à Québec en fin de semaine qui devient presque une figure de style, un ballet entre la gauche et la droite. Donc, gauche et droite, ce défi sans heurts à Québec, c'est le titre du texte de David Rémillard et Guillaume Piedbeuf du Soleil. Accusant le gouvernement Couillard de bafouer le peuple québécois, des groupes identitaires ont manifesté samedi en marge du congrès du Parti libéral à Québec. Les mouvements identitaires Storm Alliance et La Meute étaient les deux principaux acteurs de cette manifestation à laquelle s'est aussi invité le groupe d'extrême droite Atalante Québec. Seuls les deux premiers s'étaient donné rendez-vous au Parc de l'Amérique française à 11 heures. La marche vers l'Assemblée nationale a été lancée peu après-midi sous une pluie soutenue. Les quelques centaines de membres de Storm Alliance ont été les premiers à prendre la rue en scandant « Dehors, Couillard ». Avec eux, des membres des 3% Québec qui se décrivent 111% pardon, Québec, oui, qui se décrivent comme une milice, marchaient en périphérie pour assurer la sécurité des manifestants. Munis de vêtements aux couleurs militaires, dont des vestes pare-balles, les 111% étaient les bienvenus à titre de citoyens, a expliqué David Treggett, président et fondateur de Storm Alliance. Des journalistes de CBC ont rapporté avoir vu des membres de la milice armée de Matraque. Le Soleil n'en a cependant pas été témoin, pas plus que le service de police de la ville de Québec. Un second cortège, uniquement formé de la Meute, qui avait aussi son propre service de sécurité, a amorcé une marche silencieuse à quelques mètres derrière Storm Alliance. Les deux groupes, séparés par une ligne de policiers anti-émeute, ne se sont pratiquement pas mélangés. Au même moment, une centaine de militants terminant un rassemblement antiraciste devant l'Assemblée nationale ont entamé une marche afin d'aller à la rencontre des groupes identitaires. Menée par une vingtaine d'hommes et de femmes cagoulés, la contre-manifestation s'est rapidement heurtée à une large escouade anti-émeute du service de police de la ville de Québec, au coin du boulevard René-Lévesque et de l'avenue Honoré-Mercier. Énervés à la vue des manifestants identitaires immobilisés à une centaine de mètres devant eux sur René-Lévesque, les antifascistes ont commencé à invectiver les policiers, les accusant d'être à la solde des riches et des fascistes. Les agents ont répliqué en enfilant des masques à gaz et en avançant sur les contre-manifestants, les forçant à reculer afin de laisser place à la marche de la Meute et de Storm Alliance. Tentant de garder la rue malgré la charge policière, l'attention des antifascistes s'est soudainement tournée vers un autre groupe derrière eux. Faisant irruption sur les remparts du Vieux-Québec, un petit contingent d'hommes faisait flotter des drapeaux du groupe ultranationaliste, Atalante Québec, a dévoilé une grande banderole où était inscrit « Le Québec aux Québécois ». À peine le temps pour quelques contre-manifestants d'échanger insultes et injures avec les représentants d'Atalante que les policiers amorçaient une autre charge, repoussant les antifascistes devant l'Assemblée nationale, puis au parc des champs de bataille. Des gaz irritants ont été utilisés à quelques reprises. Tentant en vain de freiner les policiers avec des balles de neige et des barrières de métal, les contre-manifestants se sont retrouvés en quelques minutes sur les plaines d'Abraham, se dispersant peu à peu par la suite. À Ottawa, ce qui retient l'attention du droit, c'est la violence envers les femmes. C'est même le titre de l'article. « Violence envers les femmes, l'Outaouais et Gatineau tirent de l'arrière », un texte de Jacques Normand Sauvé. Pour la première fois, un drapeau vert affichant un ruban blanc est hissé pour 12 jours à l'extérieur de la Maison du citoyen. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence aux femmes, une campagne annuelle qui prend sa source dans la tuerie de l'École polytechnique de Montréal en 1989. Le drapeau rappelle que Gatineau est officiellement devenu, en janvier dernier, membre du regroupement des municipalités alliées contre la violence conjugale. Gatineau fait donc partie des 300 quelques villes qui ont adhéré à cette association. Mais curieusement, même si les intentions sont là, les résultats sont décevants sur le terrain. Une enquête sociale générale de Statistique Canada plaçait Gatineau au deuxième rang des villes qui enregistrent les plus hauts taux d'appels à la police pour des cas de violence familiale au pays. Cette statistique date de 2014, mais a été rendue publique en 2016. On parlait ici de 343 cas par 100 000 habitants. L'Outaouais au complet n'est pas en reste. La maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées de Buckingham révèle qu'en 2013, l'Outaouais était la troisième région au Québec à enregistrer le plus haut taux de victimes de violences conjugales. Cette maison d'hébergement desservant en Outaouais une clientèle de femmes et d'enfants victimes de violences familiales ou conjugales. Dans la dernière année, ces sept refuges ont accueilli 464 femmes, et 339 enfants. Ces résidences ont aussi offert des services externes, comme des consultations sans hébergement ou post-hébergement, ou de l'accompagnement à 1140 femmes et à 400 enfants. Mais surtout, elles ont dû refuser en hébergement un total de 2320 femmes et enfants par manque de place. Mais Annick Brazeau, directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées, tient à rappeler que les refus faute de lits ne sont que cycliques. On ne veut pas décourager les femmes d'appeler pour obtenir de l'aide. Il n'y a pas de portrait robot de la victime comme telle. Elles sont de toutes conditions et de toutes cultures, mais certaines tendances se détachent tout de même du reste. Les statistiques compilées par la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées de Buckingham révèlent que 6 personnes sur 10 sont victimes de voies de fait simples. Les femmes de 18 à 29 ans ont les taux de victimisation les plus élevés et les auteurs présumés de violences conjugales sont des hommes un peu plus de 8 fois sur 10. Enfin, les 4 infractions les plus signalées sont les voies de fait de niveau 1, les menaces, le harcèlement criminel et les voies de fait de niveau 2. En violence conjugale, il n'y a pas de portrait type. Même au niveau des conjoints, il y en a qui ont des métiers, qui sont policiers. N'importe qui peut être un conjoint violent, explique Annick Brazeau de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. On se dirige à Sherbrooke où on apprend que le pavillon Argyll fait l'objet d'une enquête. C'est donc dans les pages de la Tribune sous la plume de Simon Roberge. Le pavillon Argyll de Sherbrooke fait l'objet d'une enquête de la part du protecteur du citoyen selon Radio-Canada à la suite de plaintes reçues à propos de résidents qui pouvaient rester des jours complets sans quitter le lit. C'est le cas de Thérèse Jacques, 88 ans, qui a ainsi été clouée à son lit durant 36 heures la fin de semaine dernière. Ce n'est pas le seul cas. Ça dure depuis le printemps, avait réagi la présidente du comité des résidents du pavillon Argyll, Claire Mercier, qui corroborait ainsi les prétentions de Mme Jacques. Nous ne sommes pas confortables avec ce qui s'est produit. Un employé a prévenu tardivement qu'il ne pouvait se présenter à son quart de travail samedi matin, tandis qu'un autre a été renvoyé à la maison parce qu'il avait des symptômes de gastro. En déficit de personnel, les services devant être temporairement suspendus sont déterminés dans un plan de contingence, avait mis en contexte une porte-parole de l'institution, Annie-André Aymon. Et vous entendez l'indicatif qui signale que c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour une autre édition des Paractualités que j'aurai le plaisir d'animer. Merci.